Vous êtes toujours à l'écoute d'RFI, les 15h à Paris, 13h en temps universel, 9h à Caracas.
Florence Tomaso.
Et c'est la dernière partie de RFI Midi consacrée à l'actualité du continent américain. Nous allons nous pencher sur cette première apparition conjointe de Kamala Harris et Joe Biden depuis le renoncement du président américain. La vice-présidente américaine en campagne pour le camp démocrate a levé le voile sur son programme économique, notamment dans le domaine de la santé. Le Venezuela toujours sous tension depuis la réélection contestée à la présidence de Nicolas Maduro. Le Brésil et la Colombie tentent une médiation en proposant une nouvelle présidentielle, ce que l'opposition au Venezuela qui revendique la victoire a opposé à refuser et oppose donc une fin de non-recevoir. Par ailleurs, nous entendrons le témoignage d'une mère dont la fille a été arrêtée et incarcérée lors des récentes manifestations dénonçant la réélection de Nicolas Maduro. Et on en reparle dans la revue de presse avec Abla Jounaïdi. Et puis comme chaque jour, le journal des Outre-mer avec nos confrères d'Outre-mer La Première. Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour.
C'était il y a 19 ans, le 16 août 2005, un avion transportant 152 passagers martiniquais et 8 membres d'équipage colombien s'écrasait dans l'ouest du Venezuela.
Une catastrophe qui sera commémorée, comme chaque année en Martinique, par l'Association des victimes qui continue inlassablement, 19 ans après, de réclamer la vérité sur ce drame.
A tout à l'heure, Benoît. Et d'abord, le journal qui est présenté par Charlotte de Rouen.
RFI Midi.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous.
Les réactions se multiplient après l'attaque de colons qui a causé la mort d'un homme en Cisjordanie occupée.
Attaque inacceptable pour Washington, condamnation de Berlin également à Bruxelles. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dit vouloir proposer des sanctions contre des responsables israéliens en réponse à cette agression. Hier, des hommes masqués ont attaqué le village de Gite près de Naplouse. Un homme de 23 ans est mort, un autre a été grièvement blessé par balle. Les responsables israéliens, eux, tentent de se distancer des auteurs des faits alors que des pourparlers sur une trêve à Gaza et la libération des otages se poursuivent. Au Qatar, le président israélien Isaac Herzog a dit son opposition à ce qu'il qualifie d'émeute.
Et les ministres des Affaires étrangères français et britanniques sont en visite en Israël et dans les territoires palestiniens aujourd'hui.
Oui, une visite pour rappeler un cessez-le-feu et une désescalade dans la région. Leur homologue israélien leur a dit qu'il comptait sur eux pour attaquer l'Iran si la République islamique s'en prenait à son pays. La situation est toujours incertaine à la frontière libanaise. Israël qui vit dans l'attente de représailles de l'Iran et du Hezbollah. Après la mort du chef du Hamas et du chef du Hezbollah, aujourd'hui, le mouvement a publié une vidéo d'une installation militaire souterraine à Beyrouth. Les précisions de Paul Ralifé.
Dans cette vidéo de 4 minutes 40, le Hezbollah, qui entoure d'un grand secret ses capacités militaires, dévoile pour la première fois une infrastructure souterraine destinée au stockage et au tir de missiles. Les images montrent un vaste réseau de galeries doté d'un système d'éclairage électrique, un centre de commandement et de contrôle équipé de matériel de télécommunication et des combattants en treillis militaires circulant à moto. La vidéo montre ensuite 3 camions surmontés de rampes de lancement de missiles circuler dans l'une des galeries. Puis l'un des véhicules se place en position de tir devant une ouverture métallique actionnée automatiquement. La chaîne de télévision Al-Mayadin, proche de l'Iran, affirme que ce site de lancement est doté de missiles de calibre 220 et 303 mm. Elle ajoute que le Hezbollah disposerait de nombreuses autres infrastructures du même type, voire plus importantes. Les images sont accompagnées d'extraits de discours de Hassan Nasrallah, dans lesquels il affirme que son parti est capable de frapper l'ensemble du territoire israélien. Sa publication s'inscrit dans le cadre de la guerre psychologique que se livrent les deux ennemis, et son but est de dissuader Israël de lancer une guerre totale contre le Liban. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
À Gaza, l'ONU demande une pause humanitaire de 7 jours pour vacciner plus de 600 000 enfants contre la polio. Le virus a été découvert il y a un mois dans des échantillons d'eau usée, une nouvelle inquiétante car la maladie se propage très vite et représente un vrai danger pour les personnes qui se trouvent dans les camps déplacés, absolument surpeuplés. Le virus envahit le système nerveux et peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles.
L'Ukraine dit vouloir persuader la Russie d'entamer des négociations équitables.
Une déclaration qui justifie l'offensive en territoire russe entamée il y a 10 jours dans la région de Koursk. Kiev a revendiqué hier la prise de nouvelles localités et le contrôle total de la ville frontalière de Soudja. De son côté, Moscou avance dans le le Donbass. Au moins 7 civils ont été blessés aujourd'hui dans une frappe sur un centre commercial à Donetsk.
Une femme désignée pour prendre la tête du gouvernement en Thaïlande.
Deux jours après la destitution du Premier ministre, le Parlement a désigné sa successeur. Petongtang Shinawat a été donc choisie. La richissime famille fait son retour au pouvoir. Portrait de cette nouvelle Première ministre avec Valentin Sébron.
Petongtan est l'héritière de la dynastie politique la plus puissante de Thaïlande. Troisième enfant de Thaksin, l'ex-premier ministre de 2001 à 2006, et nièce de Yingluck, chef de gouvernement entre 2011 et 2014, tous deux renversés par un coup d'État. Née à Bangkok en 1986, elle a étudié l'hôtellerie au Royaume-Uni avant de prendre la tête de la branche hôtelière du groupe familial créé par son père milliardaire. Mariée à un pilote de ligne et mère de deux enfants, Petongtan est une novice en politique, propulsée à la tête du parti Peu Thaï en octobre dernier. Critiquée pour son inexpérience, Petongtan a répondu qu'elle consultait souvent son père et sa tâche, dit-elle, sera comme son père d'améliorer les conditions de vie de la population. Celle qu'on surnomme Ung Ing est une star des réseaux sociaux, suivie par plus de 600 000 personnes sur Instagram. La nouvelle première ministre partage volontiers des clichés de sa vie familiale et mondaine. Son pari sera de séduire les nouvelles générations, celles qui avaient justement réclamé une refonte en profondeur du système, tout en conservant les liens avec les électeurs plus âgés, fidèles à son père, et d'éviter un nouveau putsch des militaires.
Une précision signée Yelena Tomic.
Aux États-Unis, Charlotte, ils en ont assez d'être évacués à cause d'incendies à répétition, de tout perdre dans des inondations en raison de pluies intenses.
Près d'un millier de survivants de catastrophes climatiques, comme ils s'auto-définissent, veulent voir les responsables du réchauffement global, les entreprises productrices d'énergie fossile, comme le pétrole, le charbon ou le gaz, devant la justice. Ils ont déposé une lettre hier sur le bureau du procureur général et ministre de la Justice, Merrick Garland. Il demande qu'une enquête sur la responsabilité de ces grandes compagnies dans la crise climatique soit mise sur pied. Lucille Gimbert.
Voilà ce qui reste de la maison de ma famille. Face à la caméra, Alan Myers brandit un pot de cendres. En 2018, 85 personnes sont mortes dans l'incendie qui a dévasté sa ville en Californie. Dans cette vidéo, montée par l'ONG qui accompagne ces victimes du changement climatique aux États-Unis, il y a aussi Jenny Siebold. Sa boutique de vêtements a été emportée par des inondations dans le Vermont en 2023. Ces citoyens américains réclament une enquête contre les compagnies pétrolières et gazières dont les activités sont les principales responsables du réchauffement mondial. Quentin Scott, directeur du réseau d'action climatique Chesapeake.
Grâce à une commission d'enquête du Congrès qui a obtenu plus d'un million de documents, il a été révélé que depuis les années 50, les entreprises des énergies fossiles connaissaient le mal que leurs produits peuvent causer. Et au lieu d'agir pour que la société réduise ses émissions, elles se sont lancées dans une campagne de désinformation pour nier la science et empêcher l'action des politiques.
Pour ces victimes climatiques, l'industrie pétrogazière, comme celle du tabac par le passé, doit répondre de ses actes.
Lucille Gimbert, la mer Méditerranée, elle connaît pour la deuxième année consécutive des records de température. Conséquence là aussi du réchauffement climatique, la température moyenne de la surface de l'eau a atteint près de 29 degrés hier, ce qui favorise notamment le développement d'espèces invasives.
En France, Emmanuel Macron se dit prêt à recevoir Lucie Castet.
C'est sur son nom que la gauche s'est accordée pour briguer le poste de Première ministre, mais aucun groupe n'ayant la majorité à l'Assemblée nationale. Le président veut poursuivre les concertations avec les partis la semaine prochaine. Il convie les chefs de parti vendredi prochain en espérant, je cite, « avancer vers la constitution d'une majorité la plus large possible et la plus stable possible ».
Charlotte, la Chine va limiter les exportations d'antimoine.
C'est un métal rare utilisé pour ses qualités de retardateur de feu dans différents secteurs de l'industrie. À partir du 15 septembre, Altine Lazage, il faudra obtenir une autorisation des autorités chinoises pour pouvoir exporter ce minerai.
Dans son annonce, le ministère chinois du Commerce souligne que cette mesure vise à protéger les intérêts nationaux et la sécurité. En effet, l'antimoine est un minerai stratégique. Il est utilisé dans les matériaux résistants au feu, dans la fabrication de batteries, de panneaux photovoltaïques ou encore dans l'industrie d'armement. Et un contrôle sur les exportations de ce métal pourrait poser des soucis aux industries des pays occidentaux dont la rivalité avec l'empire du milieu ne cesse de croître. Car la Chine est le plus grand producteur d'antimoine, 48% de la production mondiale en 2023. Depuis l'an dernier, Pékin continue de restreindre l'exportation de certains minerais stratégiques et des technologies qui permettent de les produire. La Chine a déjà déjà mis en place des restrictions de ses exportations de graphite, de gallium et de germanium. Et à chaque fois, les autorités de Pékin mettent en avant la nécessité de sauvegarder les intérêts nationaux du pays.
Précision signée Altine Lazage.
Merci Charlotte Drouin, c'était votre journal. Il est 15h10 à Paris, c'est toujours RFI.
Le journal d'Haïti et les Amériques sur RFI.
Today we take the next step. Thank you, Joe. Forward in our fight.
Voilà, vous l'avez compris, Kamala Harris, c'était sa première apparition publique avec le président américain depuis qu'il a annoncé sa décision de ne pas concourir à la Maison-Blanche. Abla Jounaïdi, bonjour.
Bonjour.
Joe Biden, Kamala Harris sur scène, la presse américaine y revient longuement.
Oui, pour The Hill, les deux ont exécuté une danse délicate. Il faut dire, souligne le journal, que les démocrates sont bien plus enthousiastes à propos de Harris et de sa candidature qu'à propos du président en exercice. Pourtant, elle ne pouvait pas paraître irrespectueuse ou dédaigneuse à son égard. L'idée était de passer le flambeau quelques jours avant la convention démocrate censée l'introniser comme candidate. Elle a donc quitté la scène lorsque Biden a commencé à parler. Lui a rendu hommage à sa capacité à être une sacrée présidente, souligne The Hill.
Et si la mise en scène était essentielle hier, le plus important c'est que l'événement était soutenu par la Maison-Blanche.
Oui, car hier à Largo dans le Maryland, l'administration Biden dévoilait les résultats de négociations historiques sur le prix des médicaments. Cela a permis aux deux protagonistes de la soirée de se présenter comme ceux qui affrontent l'industrie pharmaceutique au nom des Américains plus âgés à un moment critique de la campagne présidentielle, analyse le New York Times, un très vieux cheval de bataille démocrate. Joe Biden a rappelé que déjà dans les années 1970, il avait travaillé en tant que sénateur sur une loi qui aurait permis à Medicare, l'équivalent local de la sécurité sociale, de négocier directement les prix avec les sociétés pharmaceutiques, rappelle le quotidien. Aujourd'hui, vendredi, la candidate démocrate doit présenter son programme économique sensiblement identique à celui de Joe Biden. Problème, alors que Harris et Biden, avec la mesure présentée hier, cherchent à sensibiliser les électeurs sur le thème du pouvoir d'achat, les nouveaux tarifs n'entreront pas en vigueur avant 2026. Cela crée un défi pour le ticket démocrate, prévient le Washington Post.
Abla, au lendemain de la démission de la présidente de l'Université de Columbia à New York, les facs se préparent au retour des manifestations pro-palestiniennes.
Les présidents d'université subissent la pression des anciens élèves et des administrateurs pour agir. La rentrée universitaire, c'est dans 3 semaines aux États-Unis et les facs réécrivent les règles pour déjouer les manifestants, titre le Wall Street Journal. Avec un triple objectif, souligne le quotidien, maintenir les tensions à un niveau raisonnable, éviter l'intervention de la police et limiter les atteintes à la réputation de leur école. Exemple, l'université d'Indiana veut instaurer une demande d'autorisation pour installer des tentes, limiter le bruit et la durée des manifestations. Denver a décidé d'interdire totalement les campements, énumère le quotidien. Après la démission de leur présidente, les administrateurs de Columbia à New York étudieraient, selon le journal, la possibilité de donner aux forces de sécurité du campus le pouvoir d'arrêter les contrevenants. Des mesures qui ne vont pas sans susciter la controverse parmi les étudiants et certains professeurs. William & Mary, une université publique de Virginie, suit, elle, une toute autre voie. Elle a décidé de former le personnel au projet Better Arguments de l'Aspen Institute, un projet pédagogique qui prône le débat, non pas pour gagner contre l'adversaire, mais pour apprendre à ses côtés. De quoi aider à gérer une période vraiment difficile de notre histoire nationale, veut croire la vice-présidente de l'université, interrogée par le Wall Street Journal.
RFI Midi.
Au cœur de Caracas, la capitale vénézuélienne, la prison de l'Hélicoïde, appelée ainsi à cause de sa forme en hélice, c'est un centre de détention destiné aux prisonniers politiques. Des centaines d'entre eux auraient été enfermés là au lendemain de l'élection contestée de Nicolas Maduro. C'est le cas de la collaboratrice de l'opposante, Maria Corina Machado. Maria Oropeza s'était même filmée en direct pour montrer les conditions de sa détention par l'armée. Aujourd'hui, sa mère, Flor Oropeza, réclame sa libération au micro RFI de Maria.
Imaginez dans quel état je suis. C'est la première fois que cela nous arrive. Ma fille a toujours lutté, elle a toujours fait de la politique. Mais elle ne fait pas partie de ceux qui mettent le bazar. Elle luttait de manière pacifique. Je ne l'ai pas vue depuis 8 jours. Elle est censée être à l'hélicoïde, mais ils ne me laissent pas aller la voir. Ils me disent qu'elle va bien, mais j'aimerais pouvoir le constater de mes propres yeux. Ils la traitent comme si c'était une terroriste. Lorsqu'ils sont venus l'arrêter chez elle, Il n'avait pas d'autorisation pour entrer dans son appartement. C'est comme s'ils l'avaient enlevé. Ils l'ont emmené de force, sans son consentement. Nous sommes beaucoup de familles dans cette même situation, à attendre que nos proches sortent de prison. Nous savons qu'ils n'ont rien fait. Il faut qu'ils soient libérés rapidement. C'est la première fois qu'on doit faire appel à la communauté internationale. J'ai été interviewée par des médias de plusieurs pays. Et j'espère que cela va permettre à ma fille de sortir, ainsi qu'aux autres prisonniers politiques. Je vais continuer à hausser le ton de manière pacifique, parce que c'est une injustice ce qu'ils sont en train de faire à ma fille.
C'était la mère de l'opposante Maria Oropeza, détenue à Caracas, au Venezuela. Hier, le président Nicolas Maduro a rejeté les appels à organiser un nouveau scrutin émanant des États-Unis, mais pas seulement à Blas.
Oui, Maduro rejette l'idée que les États-Unis aient l'intention de devenir l'autorité électorale du Venezuela, titre Ultimas Noticias. Avant cela, le Brésil avait suggéré cette idée, soutenue aussi par le président colombien Gustavo Petro. Régime et opposition sont d'accord pour une fois. Pour la dirigeante Maria Corina Machado, c'est de l'irrespect envers les Vénézuéliens qui se sont déjà exprimés, sous-entendus en faveur de son camp. L'opposante en a profité pour réitérer son appel à la protestation mondiale demain, 17 août. Le quotidien colombien El Espectador estime que le Brésil et la Colombie, les principaux médiateurs dans la crise, ont présenté des propositions qui non seulement laissent les deux parties insatisfaites, mais qui ne répondent pas aux problèmes de fond, le manque de transparence des organes pro-gouvernementaux lors des élections du 28 juillet. Le quotidien va même jusqu'à remettre en question la crédibilité de ces deux médiateurs. Le quotidien brésilien Estadão abonde. C'est le genre de mesure qui met en péril le rôle du Brésil en tant que médiateur, alors qu'il devrait chercher à établir la confiance avec les deux parties. Preuve du mauvais signal envoyé, la Maison-Blanche a dû revenir sur les propos de Joe Biden en soutien de cette proposition. Et le Mexique a rétro-pédalé aussi, souligne le journal Estadão.
Merci à Blajounaïdi pour cette revue de presse.
RFI Midi. Gonaïve, 90.5 FM.
De 2021 à 2024, plus d'un demi-million de personnes ont fui le département de l'Ouest pour échapper à la violence des gangs criminels qui assiègent la capitale haïtienne. Selon l'Organisation des Nations Unies pour la Migration, l'OIM, 47% des déplacés ont trouvé refuge dans le grand sud du pays, dont Sud, Nippe, Grand-Anse et Sud-Est. Le département du Sud, à lui seul, accueille plus de 114 000 personnes. Dans la ville d'Ecaille, chef-lieu de ce département, les déplacés vivent dans des conditions difficiles, notamment les femmes et les filles. Certaines adolescentes ont même été violées. Au CAI, les conditions de vie déplorables des déplacés internes. C'est un dossier signé Ronel Paul.
C'était le 10 mai dernier, dans la soirée. Des bandits armés prennent d'assaut le commissariat de Crécier, à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale Port-au-Prince. À ce moment précis, Micheline et sa fille de 14 ans participent à une veillée de prière dans une église un peu éloignée de son quartier. Le lendemain matin, elle retrouve la zone complètement en ruine. Elle n'a pas le choix. Elle doit partir avec le strict minimum.
Je suis partie sans rien. Ce jour-là, je n'avais que 30 gourdes sur moi. Le sac qui était en ma possession ne contenait presque rien, puisque j'avais passé la nuit chez une amie. Dans ma maison, j'ai seulement eu le temps de récupérer des documents importants. Puis je suis venue les mains vides au CAI.
Heureusement pour Micheline, sa mère habite dans la ville d'Ecaï, où elle est actuellement hébergée. Mais le problème, c'est qu'ils vivent à 7 dans une petite maison. Pourtant, elle s'estime très chanceuse au regard des conditions de vie de nombreux déplacés.
Moi, Dieu soit loué, je suis chez ma famille. Mais pour ne rien cacher, il y a d'autres personnes qui vivent difficilement. C'est pour ça que moi, je ne peux pas trop me plaindre. Même si je ne vis pas dans des conditions idéales, puisqu'en tant qu'adulte, j'étais indépendante et maintenant je ne le suis plus.
Dans ces conditions, certains déplacés, notamment les femmes, n'ont d'autre choix que de solliciter l'aide des autorités locales. Luiseline Calixte est membre du conseil d'administration de la commune de Torbeck, située à 7 km de la ville d'Ecaï.
J'ai rencontré plusieurs jeunes à qui j'ai porté assistance en les orientant vers des petits boulots en fonction de leur situation. Parfois, il y a des femmes qui m'ont dit « Pourriez-vous m'aider à trouver un petit travail, par exemple faire la lessive pour les gens, afin de pouvoir prendre soin de mes enfants. On est obligé de les accompagner et de leur trouver quelque chose. »
À défaut de trouver de l'aide auprès des autorités, nombreuses sont les adolescentes qui sont obligées de faire la manche dans les rues d'Ecaï pour subvenir à leurs besoins. Très souvent, malheureusement, elles font de mauvaises rencontres, explique Ditchley Sylvain, directrice départementale sud au ministère de la Condition féminine et des droits des femmes.
Certains hommes profitent de la vulnérabilité de ces adolescentes adolescentes pour les violer. Parfois, certaines adolescentes viennent dans notre bureau et nous disent qu'elles ne voulaient pas coucher avec ces hommes, mais qu'elles avaient été obligées d'accepter parce qu'elles n'avaient pas les moyens de refuser.
Selon le rapport de l'OIM publié en juin dernier, sur les quelques 578 000 personnes qui ont fui la capitale, le département du Sud à lui seul en accueille plus de 114 000, ce qui met en difficulté la ville d'Ekaï qui connaît des problèmes économiques majeurs en raison du blocage de la route nationale au niveau de Martissant, au sud de la capitale haïtienne, la seule voie terrestre qui permet d'approvisionner le Grand Sud en général. Pour faire face à cet afflux massif de déplacés internes, Pétuel Métor, maire adjoint de la ville d'Ekaï, sollicite en plus du soutien de l'État central l'aide de la diaspora haïtienne.
Ensemble d'Haïti, nous appelons l'ensemble des Haïtiens qui vivent à Paris à entrer en contact avec la mairie d'Ekaï pour voir comment ils peuvent aider, notamment les enfants, parce que la situation est grave. La ville d'Ekaï n'est pas préparée à recevoir tout ce monde, car c'est une ville d'environ 600 à 700 000 habitants. Aujourd'hui, la ville est complètement saturée et encombrée. Si les Haïtiens qui vivent à l'étranger pouvaient trouver un moyen d'aider certains déplacés en s'adressant à la mairie d'Ekaï, ce serait bien.
L'autre préoccupation des autorités locales, c'est que l'insécurité s'installe dans la ville d'Ekaï et que la misère pousse certains déplacés dans la délinquance.
Un dossier sur Haïti réalisé par Ronel Paul.
RFI Midi.
Et c'est l'heure du journal des Outre-mer avec nos confrères d'Outre-mer La Première. Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour.
C'était il y a 19 ans, le 16 août 2005, un avion transportant 152 passagers martiniquais et 8 membres d'équipage colombien s'écrasait dans l'ouest du Venezuela.
Une catastrophe commémorée, comme chaque année en Martinique, par l'AVCA, l'Association des victimes du crash aérien. Une association qui continue inlassablement, presque 20 ans plus tard, de réclamer la vérité sur ce drame. Sa présidente, Rosemary Taupin-Pélican, répondait ce matin sur les ondes de la Première Martinique aux questions de Christine Cupit.
Il est hors de question que nous disions notre dernier mot, en sachant qu'il y a encore tellement de zones d'ombre, tellement de malfaçons, si je puis me permettre, tellement de malfaçons dans ce dossier. Donc on ne peut pas se contenter de non-lieu, puisque nous savons que la vérité, elle est là. Il y a des choses qui sont évidentes dans le dossier, mais jusqu'à ce jour, les juges n'ont pas voulu les admettre. Nous sommes allés à la Cour de cassation, mais vous savez bien, la Cour de cassation, elle n'examine pas le fond du dossier. Elle s'occupe uniquement de la règle de droit. Et donc, nous sommes loin, loin, loin d'être satisfaits. C'est pour cela que nous vivons devant la Cour européenne des droits de l'homme. Nous nous attachons, pour cette dernière étape, nous nous attachons à revoir, à mettre en lumière tous les points sombres de ce dossier, toutes les responsabilités sur lesquelles les juges n'ont pas voulu s'arrêter.
Un tout autre sujet, les caractéristiques des foyers de Saint-Martin, objet d'une étude du tout nouvel Institut territorial de la statistique de l'île du Nord. Une étude qui met notamment en lumière une proportion plus grande de familles nombreuses. Hervé Pédurand.
Premier constat, il y a plus d'enfants chez elles qu'en Guadeloupe, par exemple. Ainsi, 11% des familles saint-martinoises comptent au moins 3 enfants de moins de 25 ans, alors que ce taux est largement inférieur sur l'île voisine de Saint-Barthélemy ou en Guadeloupe. À la Martinique, elle représente 6% des familles et 9% dans l'Hexagone. Par ailleurs, 2 familles sur 3 comprennent au moins un enfant de moins de 25 ans. C'est presque le double du taux de Saint-Barthélemy et bien plus que la Guadeloupe et la Martinique au même niveau. L'ITSE ne précise pas si ces foyers sont composés de leurs 2 parents, mais à l'inverse de Saint-Barthélemy, la prédominance de familles monoparentales à Saint-Martin et en Guadeloupe est déjà observée, cette fois par l'INSEE, l'Institut national de la statistique, notamment lors d'une enquête en 2013.
Bon après-midi, bon week-end Florence, à lundi.
Merci Benoît Ferrand. Et à l'approche de la présidentielle américaine, nous continuons notre tour des États-Unis en musique avec l'historien spécialisé Lorik Enneton, auteur du livre Rock and Road Trip à l'approche de la convention démocrate qui se déroulera lundi. Il pose ses valises en Illinois avec Julien Coquel-Rohem.
Et en ce 16 août, notre destination est incontournable, Chicago, où s'ouvre lundi prochain la convention démocrate, un rendez-vous bouleversé par le retrait de Joe Biden. La convention va donc confirmer la candidature de Kamala Harris, qui a obtenu l'investiture du Parti démocrate le 5 août, à l'issue de 5 jours de vote en ligne. Come on, baby, don't you wanna... Sweet Home Chicago, ici dans sa version des Blues Brothers, l'évidence même pour entamer notre virée du jour à Chicago.
Baby, don't you want to go? Évidemment que tout le monde veut aller à Chicago, à commencer par les démocrates pour la convention qui va lancer la dernière longue ligne droite avant l'élection de novembre.
Mais attendez, ce n'est pas une chanson de campagne comme on l'a évoqué le mois dernier.
Ah, pas du tout, mais c'est devenu une sorte d'hymne officieux de Chicago en général et du Chicago Blues en particulier. En réalité, la version originale remonte au milieu des années 30 et elle est l'œuvre du légendaire Robert Johnson.
Car Chicago est une ville rêvée par les bluesmen comme lui.
Bah, plus généralement par les noirs du vieux sud rural coincés dans un système de métayage qui les endette toujours plus. Si on ajoute à ça des mauvaises récoltes, la mécanisation de l'agriculture et une ségrégation omniprésente, bah, pas étonnant que les noirs aient la bougeotte.
Mais alors pourquoi Chicago? Sûrement pas pour le climat en tout cas.
Ah non, en effet, les hivers sont plutôt frisqués, hein, mais la ville a une aura très particulière. D'abord parce qu'elle est la promesse d'emploi mieux rémunérée dans l'industrie et les services, mais aussi grâce à un journal, le Chicago Defender, tenu par des noirs et distribué aussi dans le sud. Et puis, il y a les catalogues des magasins Sears Roebuck où on peut commander des articles introuvables dans les boutiques du Sud. Donc, c'est un horizon de modernité, d'indépendance et d'abondance pour les Noirs du Delta.
The 20 Flight Rock par Eddie Cochrane en 1956, le rock du 20e étage. Mais qu'est-ce qu'on y trouve donc à ce 20e étage?
La chair est tendre du narrateur, mais voilà, l'ascenseur est en panne.
Aïe, donc 20 étages à pied, vivement qu'il soit réparé.
Et comme vous l'avez peut-être entendu, l'ascenseur a été envoyé à Chicago pour être réparé.
Mais pourquoi donc ?
Parce que c'est le siège de la société Otis, le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants. À la fin du 19e siècle, New York et Chicago se tirent la bourre pour construire des immeubles toujours plus hauts. Grâce à l'acier, on peut empiler bien plus d'étages qu'avant, mais problème, à partir d'une certaine hauteur...
L'ascenseur s'impose, d'où le siège à Chicago et pas ailleurs. Pourtant, Chicago n'est pas une ville aussi ancienne que New York.
Alors Chicago, c'est une ville champignon. Elle est fondée en 1833 au bord du lac Michigan. Et on parle à l'époque de quelques cabanes. En 1871, un grand incendie ravage une ville qui avait déjà bien grandi et qui se reconstruit de plus belle pour devenir la deuxième ville du pays derrière New York. Ce qui explique aussi pourquoi elle attire les Noirs du Sud. C'est plus qu'une ville, c'est une promesse, la promesse d'une vie meilleure. So your brother's bound and gagged, and they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom. How can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring?
Graham Nash chante aussi Chicago ici en 1971. Qui appelle-t-il à venir chanter à Chicago?
Ses compères Crosby, Stills et Young pour faire libérer les Chicago 8, emprisonnés après les débordements de la convention démocrate d'août 1968 à Chicago, précisément.
Une convention marquée par quelques tensions.
C'est le moins qu'on puisse dire. L'atmosphère est électrique dans la ville autant qu'au sein des démocrates réunis et ça tourne carrément au pugilat.
Le contexte de guerre du Vietnam n'aide sûrement pas.
Non seulement la guerre du Vietnam, mais les assassinats politiques. Martin Luther King en avril, Bobby Kennedy, à qui l'investiture démocrate était promise début juin, les esprits s'échauffent, la police réprime et la foule scande « The whole world is watching », le monde entier nous regarde. Et ce sont en fait les illusions des 60s qui s'effondrent en direct.
Julien Coquel-Rohamé, Lauric Henneton.
RFI Midi.
Et c'est la fin de RFI Midi. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes rédactionnelles, à Benoît Almeras pour la coordination. Restez à l'écoute de la Radio du Monde. La suite des programmes dans un instant avec notamment la campagne présidentielle USA 2024 en musique.
RFI N'Djamena, 100.2 FM. Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Pourquoi RFI n'est pas diffusé partout en France ? Créée en 1931, Radio France Internationale a-t-elle toujours porté ce nom ? qu'est-ce que c'est que le KB et à quoi sert-il ? Plongez cette semaine dans l'histoire de notre radio et de ses secrets.
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Julia Trancheval. Tout à l'heure à 19h41 sur RFI.